Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi 28 janvier 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. L'Iran avertit Israël qu'il riposterait à toute attaque contre son territoire. Les Hachtal-Shabi ont sécurisé plus de 450 kilomètres de la frontière avec la Syrie et le président tunisien victime d'une tentative d'empoisonnement. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les menaces anti-iraniennes du chef d'état-major de l'armée israélienne font partie d'un projet de guerre psychologique de l'ennemi sioniste, a fait savoir le porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes, le général de brigade Abolfaz Shekarchi. Ils n'ont encore rien vu de la puissance et l'autorité des forces armées de l'Iran, a-t-il averti. Le général Shekarchi a évoqué les propos du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, qui avait affirmé que si les sionistes venaient à commettre la moindre erreur pour agir contre l'Iran, les forces armées iraniennes détruiraient sur le champ les sites balistiques depuis où ils voudraient lancer leurs attaques contre l'Iran et anéantiraient en 5 minutes des cibles comme Tel Aviv ou Haïfa. Le porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes a souligné: ils ne connaissent pas réellement les capacités militaires de l'Iran. Ils n'en ont d'ailleurs rien vu. En fait, les manœuvres de nos forces armées ne dévoilent qu'une petite partie de leur capacité de combat. La moindre erreur de leur part tournera tout de suite contre eux et accélérera l'anéantissement certain de leur régime. Au lieu de se donner la peine de planifier l'avenir, les dirigeants du régime sioniste devraient se soucier plutôt de leur effondrement total, a averti le général Shekarchi avant de souligner. Aujourd'hui, l'anéantissement du régime sioniste est dans l'ordre du jour. Ce régime sera anéanti et la région sera sauvée de cette tumeur cancéreuse. L'Iran se dit prêt à partager avec le Kenya les expériences de ses entreprises basées sur le savoir. Le vice-président pour la science et la technologie de la République islamique d'Iran, Sulaiman Sattari, s'exprimant lors d'une réunion avec le ministre kényan des communications et des technologies de l'information, a dit prêt Téhéran à partager les expériences réussies des entreprises créatives iraniennes fondées sur la connaissance avec leurs homologues kényans. En visite à Nairobi, à la tête d'une haute délégation scientifique et technologique, Sulaiman Sattari, vice-président pour la science et la technologie de la République islamique d'Iran, a rencontré le mercredi 27 janvier le ministre kényan des communications et des technologies de l'information, Joseph Vakaba Mucheru. Était également présent à la réunion Richard Gatia, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Kenya. Faisant référence au progrès significatif de l'Iran dans le domaine des nouvelles technologies, le vice-président pour la science et la technologie de la République islamique d'Iran a déclaré: l'Iran est aux prises avec les sanctions américaines oppressives depuis 40 ans. Mais ces sanctions non seulement n'ont pas entravé les progrès de l'Iran, mais encore ont fourni la meilleure motivation aux scientifiques et universitaires à devenir autosuffisants dans divers domaines scientifiques. Afin de répondre à nos besoins, nous devons produire et concevoir nous-mêmes tous les équipements et produits. Cela nous a également conduit à l'autosuffisance et à localiser nos industries, a-t-il fait savoir. Les Ashtal-Shaabi ont sécurisé plus de 450 km de la frontière avec la Syrie. Selon le porte-parole du commandement des opérations conjointes de l'Irak, les forces armées irakiennes ont l'intention d'installer davantage de barbelés à la frontière avec la Syrie afin de mettre fin à l'infiltration des terroristes Daesh en provenance de ce pays. Mercredi 27 janvier, le porte-parole du commandement des opérations conjointes, le général de division Tahsin al-Khafaji, a déclaré dans un communiqué que l'Irak installerait également des caméras de surveillance thermique le long de la frontière avec la Syrie pour s'assurer que les daéchistes ne pourraient pas s'infiltrer dans le pays depuis la Syrie voisine. Le général de division Al-Khafaji a déclaré que les forces de sécurité irakiennes s'emploient à sécuriser les 610 km restants de la frontière en coordination avec les combattants des unités de mobilisation populaire Ashtal-Shaabi. Les forces de sécurité irakiennes ont surveillé les actions des terroristes et déjoué leur infiltration en territoire irakien depuis le nord-est de la Syrie, a-t-il dit. L'Irak travaille d'arrache-pied pour sécuriser sa frontière avec la Syrie depuis la défaite de Daesh en 2017. Le président tunisien Kais Saied a été victime d'une tentative d'empoisonnement, rapporte l'agence officielle TAP. Mercredi 27 janvier, le palais présidentiel tunisien a annoncé que le président avait été ciblé par un colis postal toxique. Un officiel tunisien n'a pas écarté l'hypothèse de l'implication d'Israël dans l'affaire. L'enveloppe contenait de la ricine et a été adressée au palais présidentiel. Des tests et des analyses sont actuellement en cours pour tous les colis suspects envoyés au palais présidentiel. Il existe une forte possibilité de l'implication d'Israël dans le plan manqué de l'assassinat du président tunisien, en particulier après les positions de Kais Saied vis-à-vis d'une normalisation avec Tel Aviv, a dit mercredi soir le secrétaire général du mouvement tunisien Echab Zuhair Marzaoui. S'opposant à la normalisation des relations avec le régime sioniste, le président tunisien Kais Saied a souligné à plusieurs reprises l'importance de soutenir les droits inéluctables du peuple palestinien et surtout celui de l'autodétermination et de l'établissement d'un État indépendant avec pour capitale la ville sainte Quds. Et pour fermer le journal, la Somalie s'était initialement fixé l'objectif de tenir ses premières élections entièrement démocratiques depuis 1969 en donnant une voix à chaque citoyen lors du scrutin. Selon le complexe système actuel, des délégués spéciaux élisent les parlementaires qui votent ensuite pour le président. Mais ce processus a patiné en raison de multiples désaccords politiques. Mi-septembre, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, surnommé Farmajo, cinq leaders régionaux et le maire de Mogadiscio avaient finalement trouvé un accord. Celui-ci abandonnait la promesse dite d'un homme, une voix, mais prévoyait l'organisation d'élections indirectes avec un système revisité qui devait se tenir avant la fin du mandat de Farmajo en février. Mercredi 27 janvier, plusieurs candidats d'opposition ayant des ambitions présidentielles ont assuré ensemble vouloir trouver un accord politique pour organiser des élections avant le 8 février et ont demandé au gouvernement d'entamer des négociations. Selon eux, le pouvoir fédéral de Mogadiscio s'est jusqu'ici montré incapable d'engager ou d'appeler un dialogue national avec les différentes parties prenantes pour atteindre un compromis. Ils ont aussi mis en garde le gouvernement contre toute tentation d'organiser des élections partielles. Les Nations Unies avaient qualifié de réalisation historique l'introduction annoncée d'un système électoral universel en Somalie après des décennies de guerre et d'instabilité. Le fragile gouvernement fédéral contrôle seulement une partie du territoire somalien, malgré le soutien de la force de l'Union africaine en Somalie à mi-somme. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Iran peut-il faire confiance à Biden? Ces derniers jours, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, s'est entretenu avec ses principaux alliés européens, à savoir le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, des questions liées à l'accord de 2015 sur le nucléaire civil iranien. Une source bien informée à Washington a déclaré lundi à Sky News Arabia que l'administration du président Joe Biden allait lancer une initiative par l'intermédiaire des médiateurs européens pour ouvrir un dialogue direct avec Téhéran. Le responsable qui a préféré garder l'anonymat a ajouté qu'il y aurait une nouvelle approche visant à mettre l'accent sur la stratégie de dissuasion américaine dans la région et à trouver une solution négociée avec Téhéran. La source a souligné que ces étapes seraient accompagnées de contacts avec les alliés des États-Unis dans la région, en particulier avec les pays arabes du sud du Golfe Persique et Israël. Dans ce contexte, lors de sa première visite au Moyen-Orient après la fin du mandat de Donald Trump, le commandant du CENTCOM, le général Khaled Makhzi, avait déclaré que les relations entre les États-Unis et l'Iran étaient entrées dans une phase d'opportunité après la victoire électorale de Joe Biden et le départ de Trump. Rappelez qu'après le retrait unilatéral des États-Unis de Donald Trump de l'accord nucléaire de 2015 et la réimposition illégale des sanctions secondaires à Téhéran, les partenaires européens de l'accord ont adopté une position positive par rapport au plan global d'action conjoint, sans prendre toutefois des mesures pratiques efficaces pour permettre à l'Iran de profiter des avantages de l'accord nucléaire sur le plan économique, malgré les sanctions américaines. Maintenant, des analystes indépendants à Téhéran soulignent qu'il faut être très prudent en ce qui concerne les récentes déclarations des membres de l'administration Biden qui semblent être favorables au retour des États-Unis au plan global d'action conjoint et la reprise des négociations avec l'Iran. D'ailleurs, plusieurs responsables du gouvernement iranien ont affirmé que Téhéran ne prenait pas en compte les promesses verbales et attendait des mesures pratiques de la part des Américains. L'objectif des États-Unis, de Joe Biden et de ses principaux alliés européens est clair: préparer une nouvelle plateforme pour la reprise du dialogue avec la partie iranienne, de sorte que d'autres questions, puissance balistique et la position régionale de l'Iran, soient intégrées au menu des discussions. En effet, le but final des Occidentaux est d'imposer plus de contraintes aux Iraniens, non seulement dans le dossier du nucléaire civil, mais aussi dans plusieurs autres domaines. Comme l'a souligné le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, un retour américain au plan global d'action conjoint n'aurait une véritable signification que si Washington levait d'abord toutes les sanctions qu'il a réimposées injustement et illégalement à Téhéran. Selon des sources proches du dossier des relations irano-américaines, pendant les 4 ans de son mandat, Donald Trump a réimposé 102 sanctions à l'Iran et décrété 751 nouvelles sanctions sous divers prétextes: terroristes, droits de l'homme, sécurité, menaces militaires, etc. Dans tout éventuel contact direct ou indirect avec la partie occidentale, les autorités iraniennes garderont à l'esprit que les adversaires américains et européens tenteront de maintenir une série de sanctions avant de pouvoir les utiliser comme des leviers de pression efficaces contre l'Iran. Leur but serait de pousser l'Iran à renoncer à tous ses droits en échange de la levée de ces sanctions. C'est la raison pour laquelle des voix s'élèvent à Téhéran pour dire que le gouvernement iranien ne devrait absolument pas se contenter d'une levée partielle des sanctions en exigeant la levée totale et inconditionnelle de toutes les sanctions pour déjouer ce dessein des Américains et de leurs partenaires européens.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ces récents événements, développements qui se sont produits En Irak, il y a eu tout récemment, vous en êtes rendu compte, et si vous avez suivi l'actualité, un double attentat terroriste à Bagdad, capitale irakienne, un attentat qui a laissé plusieurs morts et blessés. Et suite à cet attentat terroriste, à ce double attentat terroriste, la résistance irakienne a lancé une sévère mise en garde à l'adresse de Washington et également à l'adresse de Riyad, capitale saoudienne, parce que les terroristes kamikazes étaient d'origine saoudienne, qui ont commis en fait ce double attentat à Bagdad, capitale irakienne. Et ces derniers jours, il y a eu des attaques contre des convois militaires américains sur le territoire irakien. Il y a eu également des informations comme quoi les États-Unis continuent toujours en fait de déployer, redéployer les terroristes tant en Irak qu'en Syrie. Il y a toujours en fait cette exigence du côté des hommes politiques et des partis politiques en Irak pour réclamer, si vous voulez, l'expulsion des forces américaines d'Irak. Il y a ceux parmi des hommes politiques et surtout des parlementaires qui estiment que le problème auquel, ou bien les problèmes, mettons-le au pluriel, auquel est confronté actuellement l'Irak, sont dus plutôt à la présence militaire des États-Unis qui, en jugé toujours par certaines informations, cherchent même à réactiver le groupe de terroristes Daesh pour s'en servir comme un moyen de pression contre le gouvernement irakien. On va vous en parler avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas par Skype un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. C'est toujours un plaisir et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse, cette magnifique ville française à visiter. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir, M. Norostein. Bonjour à vos auditeurs et à Maître Develet qui est à Damas.
Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle évaluation portez-vous sur ces récents développements qui se sont produits en Irak, s'il vous plaît?
Eh bien, après cet attentat, donc, qui a fait à peu près 32 morts, je crois, au marché de Bagdad, et vous avez marqué, vous-même, très bien marqué l'origine des terroristes, des Saoudiens, nous voyons qu'il s'agit là, bien sûr, d'une attaque contre le gouvernement irakien, contre la nation irakienne. Et nous ne pouvons que constater que ceci se produit justement est un des premiers actes, dans lequel on peut supposer une intervention des Américains après l'élection de la montée au pouvoir de M. Biden, et qui est entouré, comme le disait le Times of Israel l'autre jour, vraiment de gens qui sont très très favorables, évidemment, à ce que des troubles continuent au Proche-Orient. Et vous savez que ceci nous montre qu'il y a une suite dans la politique générale de la stratégie américaine que l'on soupçonne. Il y a bien sûr à juste titre d'être derrière cet ordre donné à des fanatiques. Il y a eu une intervention, disons, ces jours-ci, assez un renforcement assez important des troupes américaines en Syrie. Cet attentat nous semble être en corrélation avec justement, cette dénonciation que pourraient faire les États-Unis justement du terrorisme, etc., de dire que les États, c'est un paradoxe, les États qui sont victimes du terrorisme sont eux-mêmes à l'origine du terrorisme. Bon, c'est une sorte de trouble propagandistique, une sorte de trouble des consciences occidentales, voyez-vous, pour les paralyser ici l'opinion et permettre évidemment un prolongement indéfini, il ne s'agit pas de s'illusionner, des troupes américaines et même de leurs alliés. Chez nous-mêmes, en Occident, surtout en France en particulier, malheureusement, cette volonté d'intervention, de présence militaire sur place, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, est très forte. Et je crois que ce terrorisme, cet acte de terreur à Bagdad, est un prétexte. Et se servira de prétexte, justement, pour pouvoir dire que l'État irakien n'est pas fiable, vous voyez, il n'est pas capable de tenir sa population, de tenir l'ordre, que le terrorisme peut s'étendre comme une plaie, comme une sorte, comment dire aujourd'hui, une sorte de pandémie, voyez-vous, une sorte de dans le monde. Et donc, il faut bien sûr que nos bons apôtres soient sur place, les apôtres armés, bien sûr. Et ceci vaut pour l'Irak, vaut pour la Syrie. Et donc, il est certain que ceux qui ont agi, ceux qui ont donné ces ordres, voyez, d'attentats en Irak, obéissent bien sûr à une stratégie générale que l'on peut définir comme une stratégie d'intervention permanente, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on considère que ces États sont incapables, je parle l'Irak, comme pourquoi pas la Syrie, sont incapables de maintenir l'ordre chez eux, voyez. Et donc, on vient soi-disant, non pas au secours des populations, mais peut-être aussi au secours du monde, si je puis dire, en intervenant, en luttant contre un terrorisme que l'on a par ailleurs, évidemment, favorisé. Avec des prête-noms, que ce soit des milliardaires, on parle de gens du Golfe, etc. En réalité, des organisations aussi importantes que celles-ci obéissent bien sûr à des structures bien plus importantes que des gens qui se réunissent dans un café, évidemment, ou dans une maison. Il s'agit là véritablement de gens qui sont eux-mêmes, disons, dont le cerveau est lavé, voyez-vous, et qui, évidemment, obéissent au doigt et à l'œil, sont des victimes. Puis même ces criminels sont victimes, finalement, de leur aveuglement, vous voyez. C'est une machine vraiment, vraiment diabolique, il faut la dénoncer, et bien sûr, ceci, je termine là-dessus, ceci laisse augurer que cette administration que l'on présente comme administration plus à gauche, plus libérale, que ne l'a été Trump, etc., en réalité, nous sommes beaucoup plus interventionnistes que ne le souhaitait le président Trump de passer. Je crois que c'est que là, véritablement, nous assistons, disons, nous dévoilons peut-être même la politique américaine qui est déjà disons, en poste, voyez-vous, active aux États-Unis.
Maître Develet, est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme M. D'Ortiguier, que du côté de Washington, l'objectif en est d'assurer un prolongement indéfini. J'insiste sur ce point, en fait, de l'adjectif qui a été tout à l'heure employé par M. D'Ortiguier, d'assurer un prolongement indéfini de la présence de troupes américaines en Irak et également en Syrie, parce que M. D'Ortiguier vient de le dire tout à l'heure. Ces derniers jours, les États-Unis ont renforcé également leur présence militaire en Syrie, tout en essayant de redéployer des terroristes de la Syrie vers l'Irak.
Oui, effectivement, je m'inscris dans le prolongement de ce que Dr. D'Ortiguier vient de dire, à savoir que des terroristes sont libérés des prisons dans le nord-est syrien, héliportés jusqu'à la base d'Al-Khanaf, dans le triangle frontalier entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie, et de là, acheminés vers la province d'Al-Anbar, donc où se trouvent beaucoup de soldats, enfin une présence américaine renforcée. Et les attaques de convoi, effectivement, à l'US, sont le reflet des mesures de représailles exercées par la résistance irakienne pour essayer de briser ces convois et donc mettre fin à cet acheminement qui, malheureusement, vous le soulignez en ouverture, a malgré tout mené à une attaque comme on n'en avait pas vu depuis quelque temps sur les civils de grande ampleur à Bagdad il y a quelques jours de cela. Mais tout ça n'est rien de nouveau, effectivement. L'administration Biden, au-delà du président lui-même qui est plus une tête de gondole qu'autre chose, est peuplée de faucons néo-conservateurs. Il faut se référer pour cela au discours qui avait été tenu par Dana Stroul qui fait partie du think tank américain Washington Foreign East Policy. Elle a été nommée il y a 3 jours en charge du dossier en Syrie, justement, et en Irak, hein, anciennement diplomate au Pentagone et au Département d'État. Donc c'est elle maintenant qui va plus ou moins donner le la quant à la stratégie. Et la stratégie, c'est en ce qui concerne la Syrie, la continuation de la doctrine Jeffrey, à savoir le contrôle du pétrole, le contrôle de la manne, de la nourriture, et tout ce qui permettrait de faire pression sur le gouvernement syrien, afin de, je cite, contenir, si je puis dire, l'influence russe et iranienne, et avoir des cartes, selon ses propres termes, pour imposer une solution diplomatique, une solution politique au conflit qui verrait quelque part les États-Unis arracher la victoire des mâchoires de la défaite. Hein. Donc tout ce redéploiement, ces circulations de troupes sont en fait effectivement des redéploiements perpétuels pour semer le chaos et essayer à nouveau de rendre la frontière syro-irakienne poreuse, qui permettrait de multiplier au travers de la réactivation des cellules terroristes les attaques continues sur l'armée syrienne et ses alliés. Donc tout ça n'est rien de nouveau. Il faut peut-être aussi garder à l'esprit, en toile de fond, les discussions, en tout cas les prononcements et autres déclarations qui peuvent avoir eu lieu concernant un retour de l'administration américaine dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, sachant que maintenant nous ne parlons plus du même accord, nous parlons, selon les Occidentaux, d'un accord renforcé. Et pour cela, je pense qu'il faut faire une corrélation entre cette idée de créer des attaques, des déstabilisations, qui mettent en exergue le rôle de la résistance irakienne, ce que eux appellent des milices pro-Iran, et ce faisant, mettre l'accent à l'orée de la visite visiblement d'un chef de renseignement israélien à Washington dans les jours à venir, sur le besoin impérieux d'intégrer cette donnée dans les négociations. Donc tout est lié, et cette méthode, cette tactique s'inscrit dans cet objectif stratégique de déplacer, si je puis dire, la lutte, soi-disant, contre le terrorisme, contre les tout-tactilistes entretenus eux-mêmes par les Occidentaux, vers l'influence jugée disproportionnée de l'Iran dans la région.
Monsieur Dortillet, du côté de Washington, il y a eu en fait cette information comme quoi les États-Unis avaient l'intention de réviser leur présence militaire en Irak. Mais la réaction du côté, si vous voulez, de Bagdad était immédiate. 2 parlementaires irakiens ont fait allusion à cette loi qui avait été votée par le Parlement irakien suite à l'assassinat du général martyr Soleimani à l'aéroport de Bagdad lors d'un attentat terroriste, bien sûr. À l'aéroport de Bagdad. Ces 2 parlementaires ont fait allusion à cette loi votée par le Parlement en disant que voilà, l'exigence des Irakiens n'est pas la révision de la présence militaire américaine en Irak. L'exigence en fait, du peuple irakien, selon ces parlementaires, est la fin de la présence militaire américaine en Irak.
Oui, en effet. C'est justement la grande différence entre, me semble-t-il, une tendance de l'ancienne administration de Trump et la nouvelle, et le gouvernement actuel. Pour des raisons de politique que l'on peut développer ici, enfin des raisons de réaménagement de politique intérieure américaine, de centrer davantage l'effort sur l'Amérique elle-même que sur l'extérieur, Trump avait, vous savez, proposé déjà tant avec les accords, aux accords de Doha, avec l'Afghanistan, toi, avec l'Irak, de diminuer la présence, d'abord de terminer la présence américaine en Afghanistan et de diminuer considérablement la présence américaine en Irak. Mais là, c'est assez vicieux, parce que très diabolique, vraiment, parce que sous prétexte de lutter contre une tyrannie de Trump, etc., aux États-Unis, en réalité, cette nouvelle administration, sous prétexte de revenir à la table de négociation, par exemple, sur les accords nucléaires, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est intervenir, se maintenir, disons, dans, réviser, bien sûr, l'attitude de Trump, et se maintenir sous des prétextes, disons, fallacieux, évidemment, sous prétexte d'aider la faiblesse, de venir au secours de la faiblesse supposée du gouvernement irakien, se maintenir en Irak. Évidemment, ceci va à l'encontre de ce qui avait été décidé après la mort du général martyr par une majorité de l'Assemblée nationale irakienne, du départ des troupes américaines. En réalité, ceci est compromis. Et ceci est compromis d'une façon très vicieuse. Ce sont des gens, vous savez, je dis ça très rapidement, pour juger cette politique américaine d'intervention, il faut comprendre que les termes sont faux. Les termes sont menteurs. Par exemple, l'influence néoconservatrice n'est pas réellement d'influence de conservateur, comme on pourrait le croire. Les gens occupés, disons, de maintenir la paix, de maintenir, disons, des structures de leur pays. Non, ce sont des interventionnistes. Ce sont en réalité des trotskistes, vous savez, des formations vraiment communistes, des formations communistes qui forment ces néoconservateurs américains. Ils trompent leur opinion publique à l'Amérique et ils trompent également, bien sûr, le monde extérieur. Et ce sont des interventionnistes, des gens qui veulent, disons, qui cultivent la doctrine du chaos et qui sont un chaos contrôlé, comme ils l'appellent, pour pouvoir justement rendre impossible toute constitution étatique solide. Et donc, c'est une forme, voyez-vous, de subversion. Avec, bien sûr, de subversion sous prétexte de lutte contre le terrorisme, de lutte pour de bonnes pensées. En réalité, c'est le maintien d'un chaos permanent, vous voyez. On revient toujours à cette même question que d'Emmanuel Vanney. Et ceci, justement, on ne peut se sortir de ce guépier que si, véritablement, on dénonce cette logique américaine, qui est américaine, on peut dire, avec ou sans guillemets, voyez-vous, mais qui est, disons, qui est une politique que j'oserais qualifier de subversive, en réalité. Elle n'est pas offensive, elle est subversive. C'est beaucoup plus dangereux. Évidemment, elle est dirigée contre les concurrents, elle est dirigée contre la Russie, elle est dirigée contre tous les peuples d'Asie, voyez-vous. Ce qu'ils veulent, c'est maintenir une présence au bénéfice de qui? Eh bien, évidemment, du seul État qui est finalement... apparaît comme petit, mais finalement semble commander la politique américaine et justement cette nouvelle, encore plus qu'avant, cette, ou tout autant si ce n'est plus, la politique actuelle du Pentagone et évidemment de tout le cabinet de M. Biden, c'est-à-dire l'entité sioniste, évidemment.
Merci beaucoup. Monsieur Develet, s'agissant toujours de la présence militaire américaine en Irak et en Syrie, corroborez-vous l'hypothèse avancée par ceux parmi des analystes politiques, surtout de la région, qui disent que voilà, l'objectif des États-Unis n'est absolument pas de combattre le terrorisme, et très particulièrement de combattre le groupe terroriste Daesh, que ce soit en Irak ou en Syrie, parce que les États-Unis en ont besoin pour justifier leur présence militaire, que ce soit en Irak ou en Syrie.
Oui, tout à fait. Docteur Dortiguel a bien souligné l'idéologie profonde des gens qui sont maintenant aux manettes dans les cabinets américains, enfin de l'administration Biden, sont des subversifs. Ce sont des gens qui s'inscrivent dans une tradition effectivement révolutionnaire. Et pour eux, la subversion passe par l'entretien du chaos permanent. Donc, toute excuse est bonne pour justifier toujours davantage d'implication, d'augmentation de troupes. Et si l'agenda doit changer pour se faire de manière constante, ce n'est pas un souci. Moi, ce qui m'inquiète davantage, je dirais, c'est que avec ce genre de pratique de la politique étrangère qui fait fi de l'intégrité des États, on assiste maintenant à une escalade, puisque effectivement, dans le cadre de la dernière attaque, on a pu réaliser que certains des auteurs étaient de nationalité saoudienne. Ce qui laissait entendre qu'une pression a été mise sur la direction saoudienne pour réactiver de leur côté, si je puis dire, remettre l'huile sur le feu. On a vu d'ailleurs la réaction instantanée de la résistance irakienne, qui a d'ailleurs démontré qu'elle avait autant de moyens balistiques que leurs collègues de la France yéménite, qui laisse entendre que Riyad, avec son absence de profondeur stratégique, va se retrouver maintenant prise en étau, si elle est amenée de son côté à continuer à participer peut-être contre ses propres intérêts à la déstabilisation de la région. Cette espèce de surenchère permanente, sur fond de chaos permanent, est tout à fait l'objectif en fait de l'administration américaine dans ses rouages les plus sécuritaires et interventionnistes. Et c'est de cela qu'il faut se méfier et être particulièrement vigilant, parce que on risque de voir une escalade régionale, une intensification, avec une situation qui, in fine, changera complètement la donne en termes de négociations. En cela, la nomination, par exemple, du chef du Pentagone a été complètement contournée, alors que c'est quelqu'un, normalement, qui aurait dû attendre un certain nombre d'années pour pouvoir être considéré. Du fait qu'ils travaillaient pour une société d'armement privée, ils ont expédié ça de manière à pouvoir probablement avoir une forme de levier sur lui. Donc tout est fait au niveau bureaucratique pour avoir des gens mis en place qui sont parfaitement sur à la même page et qui sont pour les intérêts desquels, en tout cas, la politique du long terme ne sera pas trop prise en compte. Il s'agira juste d'exécuter les instructions qui sont, encore une fois, de créer le chaos en tant que politique, en tant qu'être politique elle-même. Il n'y a pas de long terme. C'est vraiment ça, maintenant, qu'on voit.
Monsieur D'Artiguet, très très rapidement, un des derniers mots, la mise en garde de la résistance irakienne à l'égard de Riyad était tout à fait évidente et claire.
Oui, en effet. Et là, je dois dire que je reprends les propos de Maître de Velay, c'est-à-dire à savoir que l'Arabie Saoudite elle-même, disons, va à l'encontre de ses propres intérêts, à court terme et à long terme. C'est-à-dire que ce travail de subversion qui fait contre les autres pays, et fait également à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, voyez-vous. Et c'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'un bouleversement général et en amont. Le chantage exercé sur les décideurs au Pentagone et partout, voyez-vous, aux États-Unis, appartient également à la même sphère de conduite, voyez-vous. On fait le chantage sur les uns, des pressions à tout point de vue, y compris morale. Vous avez toutes sortes de scandales, comme vous connaissez. Vous avez des pressions faites sur l'Arabie Saoudite, y compris qui peuvent aller même à des menaces de mort, etc. Nous avons véritablement affaire à des subversifs, voyez-vous.
Merci.
Et je crois qu'une des façons de résister le mieux, c'est de le dénoncer publiquement. Je crois que c'est un effort de propagande à faire, c'est-à-dire de propagande dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre ceci en évidence pour que non seulement la résistance le sait, mais que non seulement l'Arabie Saoudite, mais même aux États-Unis eux-mêmes, les gens prennent conscience justement qu'ils sont eux-mêmes joués par une force infernale.
Merci beaucoup, M. Pierre D'Artiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Merci. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnon Develay, juriste français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission par Skype depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants takfiristes. Un expert des questions irakiennes a déclaré que le moyen le plus important d'empêcher la répétition d'attaques terroristes à Bagdad est de confier au Hashdal Shaabi le plan de lutte anti-Daesh, ajoutant que les unités de mobilisation populaire connaissent parfaitement les tactiques et les méthodes terroristes de Daesh. faisant allusion à la double explosion terroriste qui a secoué jeudi dernier Bagdad, capitale irakienne, Seyed Hadi Afrahi s'est entretenu avec un journaliste de l'agence de presse iranienne Tasnim, indiquant que ces attentats à la bombe rappellent les plans des États-Unis, du régime sioniste et de certains pays arabes du sud du golfe Persique, dont l'Arabie saoudite. Parmi les prisonniers takfiristes et wahhabistes détenus dans les centres de détention irakiens, on y retrouve en majorité des prisonniers provenant d'Arabie saoudite. Il va sans dire que des prisonniers avec d'autres nationalités que la nationalité saoudienne se trouvent eux aussi dans les prisons irakiennes comme Abu Ghraib et Al-Hout à Nasiriyah. En allusion à la multiplication des opérations terroristes à Nasiriyah en Irak, l'expert iranien des affaires irakiennes a déclaré « Le but des terroristes takfiristes était de perturber la sécurité de cette ville et de baliser le terrain pour pouvoir attaquer la prison d'Al-Hout afin de libérer plus de 4000 prisonniers saoudiens et ceux d'autres nationalités. » Selon l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, les groupes terroristes Daesh, Al-Qaïda et le Front al-Nusra ont été créés par les États-Unis en Asie de l'Ouest dans le but de changer les équations de la région en faveur des États-Unis et d'assurer la sécurité du régime sioniste. Dans la conjoncture actuelle, on peut dire que Daesh souhaite le retour des politiques d'Obama et de Joe Biden. Daesh veut montrer sans doute à l'administration Biden que ses membres sont là et que la nouvelle administration américaine peut compter sur eux pour la modification de toute équation en Irak et dans la région, a ajouté l'expert iranien. Compte tenu des relations de la nouvelle administration américaine avec le prince héritier saoudien, des jours difficiles sont à venir pour Riyad. Il est possible qu'à travers l'Irak, les Saoudiens veuillent montrer et faire comprendre aux Américains qu'ils peuvent déstabiliser l'Irak d'une manière que les intérêts américains y soient affectés, a-t-il indiqué. Quant à la troisième analyse sur les attentats de Bagdad, M. Afrahi a souligné que les États-Unis, le régime sioniste et certains pays arabes du sud du golfe Persique avaient procédé à de tels attentats afin de déstabiliser et enflammer l'atmosphère irakienne et permettre de changer les prochaines élections du pays en faveur des partisans de Washington et des mercenaires affiliés à l'ambassade américaine. En réponse à la question de savoir si les attentats terroristes à Bagdad montrent l'existence d'une faille de sécurité en Irak, l'expert iranien a répondu « Le problème va au-delà d'une faille de sécurité. Lorsqu'un État terroriste, appelé les États-Unis, a occupé un pays et pris le contrôle de ses plus grandes bases militaires, et que les ambassades américaines, britanniques et saoudiennes se sont enracinées comme un triangle pervers dans tous les éléments du pouvoir et de la sécurité irakien, le fait de parler de trous et minimiser le rôle des États-Unis dans les attentats terroristes. Dans le contexte actuel, il est important pour nous de savoir quel est le but des États-Unis, de l'Arabie saoudite et du régime sioniste, de l'activation des groupes terroristes. Le régime israélien s'est rapproché des frontières de l'Irak ces derniers mois. Les sionistes sont présents aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, et ils coopèrent en secret
avec les Saoudiens sur les questions de sécurité. Eh bien, vous savez que Daesh est aux mains des Américains et les Saoudiens sont prêts à coopérer avec eux afin de rendre service aux États-Unis. Il faut donc être très prudent à cet égard, a-t-il indiqué. Concernant un moyen d'empêcher la répétition d'un attentat similaire à celui de Bagdad qui a causé la mort de civils, M. Afrahi a réitéré que l'un des moyens les plus importants est de remettre le plan de lutte contre Daesh au Hashd al-Shaabi, car cette force est très familière avec les tactiques et les méthodes terroristes de Daesh. Par conséquent, si le rôle central est confié au Hashd al-Shaabi, elles pourront mettre fin aux opérations terroristes de Daesh en Irak. En Irak, un terroriste de Daesh a avoué lors de ses interrogations qu'un groupe d'éléments suicidaires attendait l'ordre pour accomplir de nouvelles missions. Selon le terroriste, des cafés et des marchés situés dans plusieurs quartiers de Bagdad pourraient être les prochaines cibles de Daesh. Dans la foulée, Sabah al-Harili, expert des questions sécuritaires en Irak, a révélé que les militaires américains avaient transféré quelques 4000 terroristes de Daesh sur le sol irakien par les véhicules portant le drapeau des États-Unis. Sabah al-Harili a ajouté que les forces de sécurité irakiennes n'avaient pas le droit d'inspecter les véhicules militaires des forces américaines. Plutôt, nous avons mis en garde contre de nouvelles opérations terroristes perpétrées par Daesh dans certaines provinces, dont Salah ed-Din, mais les commandants irakiens n'ont pas pu réprimer ces groupes, a souligné l'expert. Il a ajouté que la présence des militaires américains en Irak ne permettrait pas aux Irakiens de déraciner les terroristes de Daesh. Avec les Américains en Irak, des attaques telles que celle de samedi visant les forces de sécurité et les Hashd al-Shaabi à l'est de Salah ed-Din pourraient se reproduire, a-t-il indiqué. À ce propos, l'agence de presse irakienne Al-Ahed News a révélé que l'attaque de samedi soir contre les Hashd al-Shaabi, unité de mobilisation populaire, bénéficiait du soutien d'une force étrangère. Citant une source sécuritaire irakienne qui préférait rester anonyme, Al-Ahed News a écrit « L'offensive visant les combattants de la 22e brigade des Hashd al-Shaabi à Salah ed-Din a été menée sous la protection et avec la planification directe des forces américaines. Les caméras thermiques des Hashd al-Shaabi ont enregistré il y a quelques jours l'atterrissage d'hélicoptères appartenant aux occupants américains dans la région montagneuse de Hamrin. Il paraît que ces hélicoptères étaient chargés des armes et des équipements militaires destinés à soutenir les terroristes dans leurs opérations. L'agence de presse irakienne a ajouté que les terroristes de Daesh étaient équipés d'armes lourdes pour attaquer les unités militaires à Hamrin. Cette source a confié à Al-Ahed News que les militaires américains instrumentalisaient les groupes terroristes pour déstabiliser les régions de la province de Salah ed-Din dans l'objectif d'en prendre le contrôle.
Thank you.